Ville en vue, magazine Planète Info. Construction, rénovation, démolition, les quartiers populaires sont façonnés par des projets d'urbanisme. Entre la pose de la première pierre et le dernier coup de pinceau, des années s'écoulent entre leur élaboration et leur réalisation. Quoi qu'il en soit, ces projets sont toujours liés aux questions de la transformation du monde du travail, à l'arrivée de populations migrantes ou celle de la spéculation immobilière. Parfois, un savant mélange des trois. Depuis les années 1950, les documentaristes se sont efforcés de montrer ces quartiers. Que montrent-ils? Comment en parler? Quelle place et quelle parole pour les habitants de ces quartiers? Organisé par l'association La Tribu, un week-end documentaire a réuni à la fin novembre habitants, sociologues, urbanistes et travailleurs sociaux pour réfléchir à 60 ans de transformation urbaine dans le Nord-Pas-de-Calais à la condition publique à Roubaix.
Et Roubaix qui m'accueille sans même un rayon de soleil.
Un signe de l'espérance, un film de Georges Dumortier, 1952. Dans ce docu-fiction de 40 minutes, le réalisateur montre à voir les conditions de vie dans les courées à Roubaix, la naissance du logement social et fait la promotion de l'action de la Commission interprofessionnelle du logement, le CIL, fondée par le patronat.
C'est donc cela une courée. Quel contraste entre la vétusté de ces masures et la sympathie de leurs habitants endimanchés qui s'intéressent tous à l'événement. Entre la joie que j'ai ramenée dans cette famille ouvrière et la dureté de son existence journalière inscrite à même le décor et que mon geste m'a soudainement révélé.
Ans plus tard, en 1980, le collectif A7 tourne « Quand les habitants prennent l'initiative », une série de trois émissions consacrées à la démolition du quartier de l'Alma-Gare à Roubaix. Interview des habitants qui refusent de partir, les premières actions contre l'expulsion, l'organisation des premiers ateliers populaires d'urbanisme.
La seule conclusion que la CHCV et la PU peuvent faire ce soir, c'est de demander à tous les participants à cette fête, habitants du quartier ou habitants l'extérieur, c'est de se tenir prêts, prêts à une épreuve et on qualifie de force. S'il le faut, nous prendrons les maisons et nous les réhabiliterons.
Michel Sabatier travaille au centre social du quartier de l'Alma depuis 1987.
L'intérêt de ce film, c'est de s'interroger sur comment un projet tel, dans l'évolution, peut échouer. C'est ça que je retiendrai. Et pas pour avoir une vision catastrophique des choses, mais juste pour savoir comment... En matière d'urbanisme, pas en matière sociale, parce que je distingue les deux, mais en matière d'urbanisme, comment, quand un quartier se bat comme ça a été, que les habitants se saisissent des choses contre les élus, parce que le film fait en sortir, il y a quand même eu, ça a été un peu au forceps, qu'est-ce qui a coincé dans, après, la gestion de ce nouvel urbanisme, de ces nouvelles pratiques, comment un office HLM a laissé partir les choses? Est-ce que véritablement c'est là que ça a coincé? Est-ce qu'on n'a pas assez anticipé les problématiques, entre autres à la fin, la personne qui a pris la parole après parlait de la présence de la police dans le dans des banlieues, etc., au niveau de l'urbanisme, mais en ayant manifestement un regard négatif. Mais pourquoi pas? Enfin, comment actuellement on conçoit la sécurité non pas après, mais pendant. Parce que, entre autres, les problèmes de sécurité ont pesé lourdement sur l'échec actuel de l'ALMA. Donc, moi, ce film me réinterroge, en tant que travailleur social, sur quels sont les chaînons qui ont manqué. Moi, je m'inclus dans l'histoire, parce que ça fait 25 ans. Et qu'est-ce qu'on a raté? Et comment on peut travailler autrement pour inscrire d'autres choses?
Vous avez encore de longs jours devant vous.
Je peux vous demander votre prénom?
Oui, Nadia.
Vous venez de voir un film sur le quartier de l'Almagar. C'est un quartier que vous connaissez?
Oui, c'est mon quartier d'origine, en fait. Et moi, j'ai grandi et j'ai passé 30 ans de ma vie dans ce quartier. Plein de souvenirs. J'ai vu ma maman qui militait à l'époque, puisqu'elle était proche de Marie-Agnès Le Mans. Et je pense que les Le Mans étaient vraiment à l'origine de la reconstruction du quartier. Donc moi, j'ai vécu cela, mais toute petite, au travers les dires de ma maman. Je suis encore tout émue parce que c'est vraiment plein de souvenirs, quoi. J'ai grandi avenue Fraser, donc j'ai connu le fort Fraser à l'époque, puisque nous habitions le 51. Donc tout à l'heure, je voyais mes anciennes voisines. C'est plein de souvenirs. À l'époque, c'est très populaire, c'est très agréable. Tout n'était pas rose, hein, mais j'ai connu l'ALMA différemment à partir des années 2000.
Aujourd'hui, le quartier de l'ALMA, il est comment? Vous le voyez comment?
Alors, moi, j'ai une grande partie de ma famille qui vit encore. Je ne sais pas si je suis suffisamment objective pour le voir comme d'autres le voient. Je le vois autrement, je le vois moins sympathique, mais j'y suis encore très active, hein, puisque je suis administratrice au bureau du centre social de l'ALMA. Je le vois autrement, mais pas forcément d'une manière aussi négative que certains le voient, parce que je connais... les familles ont changé, il y a eu une transformation, une population de primo-arrivante assez importante. C'est plus la même population, il y a moins de mixité, malheureusement. À tous les niveaux, je parle de mixité sociale, mixité ethnique, qui faisait la richesse de l'ALMA, peut-être à l'époque. Donc je le vois autrement, mais quand j'y vais, je suis très contente de revoir et ma famille. J'y vais tous les jours, hein, j'ai la chance de travailler pas trop loin, en fait.
Moi, je voulais revenir un peu sur le reportage et sur la conception du projet, en fait, l'état d'esprit dans lequel ça a été fait, cette consultation, cette concertation avec les habitants qui a été quand même forte. Et en même temps, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un échec. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, on connaît un peu l'évolution de...
Autour du sociologue Jessie Cormon, la discussion s'engage avec les habitants du quartier, morceau choisi.
Un échec, aujourd'hui, c'est des services qui occupent les lieux. Et moi, ça m'a posé question justement sur les limites de la consultation, mais aussi sur l'état d'esprit des initiateurs du projet. Des 68 arts, des post-68 arts, on l'a remarqué un peu. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment on a tenu compte réellement des habitants et de leurs souhaits, ou est-ce que tout simplement c'est une utopie, c'est un projet qui a été lancé dans un esprit, on va dire, louable, mais en tout cas j'ai l'impression quand même un peu... pas bobo, mais bon, presque, quoi. Je sais pas comment je pourrais... Enfin, voilà. C'est la question que je me pose, hein, quand même, pour connaître le quartier, quand même.
Bobo, mais bourgeois.
Alors, bobo, non, parce que c'est vraiment une erreur chronologique énorme. Je veux dire, il y a 30 ans de différence, quoi, avant les bobos.
Il y a la feuille d'inscription.
Je suis d'accord avec vous. Moi, quand je suis arrivée en 68 sur Roubaix, j'avais pas de maison, j'avais pas d'appartement, je venais de Tourcoing. J'ai trouvé une maison en cours. Mais les propriétaires, dans les 1950, comme vous dites, les propriétaires qui louaient les appartements, qui louaient les maisons dans des états pourris. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on a besoin d'un logement, on a un sur la main, on le prend. Même qu'il est pourri, on le prend. Mais quand on n'a pas de syndicat, parce qu'avant, il n'y avait pas de syndicat pour les locataires, il n'y avait personne pour nous mener au bout. Donc on était bien contents d'avoir ce logement. Moi, je veux vous dire, moi, j'ai eu de la chance de tomber sur des gens compétents qui sont venus chez moi quelques années après. Ils ont visité la maison. Ils ont vu que la maison, elle était insalubre. Parce que le propriétaire nous faisait louer cette maison dans des conditions lamentables. Mais nous, comme on n'avait rien, qu'on était à la rue, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pris. Mais quand on a eu quelqu'un sous la main pour nous aider à aller contre le propriétaire, Ben, croyez-moi que ce jour-là, ça a commencé à changer. Parce que les gens, quand ils ont vu qu'ils avaient des syndicats autour d'eux, ils se sont révoltés. Et les propriétaires, ils ont dû rembourser certains loyers des gens. Et croyez-moi qu'après, ça a été autre chose.
En clôture de ce week-end, la projection du film « Au bon coin » de Nadia Boufferkas et de Mehmet Arikan. Dans le quartier de l'Union, à la frontière entre Roubaix et Tourcoing, le propriétaire du café chez Salah résiste. Mémoire d'un passé ouvrier au milieu des bulldozers.
Comment va ? Comment va toi ? Ça va bien ?
Bonjour.
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 Nadia Boufferkas, réalisatrice et représentante de l'association La Tribu.
Donc ce film est né en fait parce qu'on travaillait sur l'écriture d'un film sur les questions de la mémoire. Un peu, enfin, c'est un peu notre obsession à Mehmet et moi, puisqu'on est deux à réaliser ce film. Un film en fait qui parlera, le jour où il verra le jour, d'une histoire d'amour contrariée par une conjoncture politique. Il s'agit de femmes françaises qui se sont mariées ou qui ont vécu avec des Algériens pendant la guerre d'Algérie. Donc ça va être un film qui va traiter de la notion de l'engagement. Et donc, quand on travaillait sur les repérages de ce film, en tout cas aller à la recherche de témoignages, aller à la recherche de couples qui existaient encore, on nous a dit aller au café Salah. Salah était effectivement mariée avec une Française qui s'appelle Ginette. Et Salah est là depuis 1949 et il a connu la guerre d'Algérie à Roubaix. Voilà. Notre première rencontre avec Salah, ça a été ça. Et en sortant du café, on s'est dit, c'est quoi ce quartier ? C'est quoi ce quartier ? C'est un quartier où on était déjà en train de détruire les maisons. Et on avait le début de certaines friches industrielles. On n'était pas encore dans le gros chantier dans lequel on voit ça là dans le film. Donc du coup, on a fouillé. On a essayé de savoir en fait ce qui se passait dans ce quartier. Et on a fait la rencontre de gens du quartier, de gens qui luttaient dans le quartier. Il y a eu des luttes collectives à Tourcoing. Il y a eu des luttes individuelles qui sont... Enfin, l'unique lutte individuelle, ça a été ça là. Donc voilà, on s'est dit, bah tiens, en même temps qu'on détruit un quartier, on est aussi en train de détruire une classe, enfin une classe sociale qui est la classe ouvrière. Donc c'était l'idée de revenir sur la mémoire d'un quartier, une mémoire qu'on est en train d'enterrer quoi, quelque part.
Dernière question. Quel est le sens finalement de ces deux journées que, pourquoi ?
Deux journées où on va pouvoir revenir sur 60 ans de transformation urbaine localement. Deux journées où on amène quelques clés d'analyse, en tout cas de réflexion, sur qui, à un moment donné, décide de la configuration d'un quartier. Deux journées où on se dit que la question des rénovations urbaines, ce n'est pas une question de fatalité. Mais c'est aussi l'occasion de repenser autrement les politiques sociales. En tout cas, on peut envisager un vivre ensemble avec plus de justice sociale, avec moins d'inégalités sociales. Voilà, c'est deux journées comme ça où des gens se retrouvent, où chacun apporte son témoignage de là où il est. On a toutes les classes sociales confondues qui viennent. C'est un peu à peu près ça.
Rachid Kasser.
Vous venez de voir un film chez Salah.
Ouais.
Vos impressions à chaud?
J'ai trouvé le film très bien, très émouvant, puisque moi je suis un ancien du textile et ça me touchait de très près. Et on a entendu aussi M. Bouzid Belgassem, je suis avec lui sur un projet d'un lieu de mémoire textile. Et ça me touche encore de plus fort que ça, parce que en fait on est en train de se battre pour un lieu de mémoire. Et j'ai connu aussi ça là il y a une trentaine d'années. Moi j'ai fréquenté son café. Et le voir aujourd'hui dans un état sans café comme ça, où il n'y a plus personne, et voir vraiment ça là, très triste, moi ça me désole un peu. Mais bon, après, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est des enjeux économiques. c'est un quartier, un nouveau quartier. Et nous, on est en train de se battre aussi pour que les logements qui vont être créés à l'intérieur de ce quartier soient aussi pour les anciens du textile, puisqu'il y aura 20% de logements sociaux, on le sait pertinemment. Et nous, on est en train de se battre pour que les anciens du textile puissent revenir dans leur quartier et pouvoir y vivre décemment. Voilà. Ça, c'est un combat qu'on mène depuis 3 ans avec les anciens salariés du textile de la Tossée, du Peignage. Et bon, on est là sur la partie finale, on est sur le volet économique et on va remettre ça à la communauté urbaine dans quelques mois pour voir si le projet sera viable sur la ligne de production.
Ben, c'est un très bon documentaire, mais comme je disais avec mes collègues et tout, depuis les années 70, le patronat du Nord a cassé le charbonnage et le textile. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, tous ces quartiers et tout auraient pu rester. Et là, c'est quand même un très bon documentaire chez Salah, mais malheureusement, est-ce qu'on va pouvoir le sauvegarder? Je crois pas.
Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce que vous avez vu?
Ce qui me choque le plus, bah, c'est un peu le personnage de Salah qui reste imperturbable et très fort lui-même. En fin de compte, c'est ça qui m'a choqué un peu le plus. C'est le seul qui reste, mais c'est un personnage, ce Salah. C'est un vieil homme et là, je pense qu'il a beaucoup de caractère parce qu'il reste imperturbable par rapport à ce qui se passe autour de lui. Il y a même une image, à un moment donné, il donne à manger à des pigeons. C'est formidable comme image.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un type que je connais très 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 bien. J'ai déjà, comment je vais dire ça, j'ai déjà été consommé là chez lui. J'ai même fait des soirées chez lui. Il y a même un café au-dessus aussi, je ne m'en rappelle plus de nom, que j'ai fait des soirées aussi chez lui. Il y a aussi de l'autre côté au feu rouge, à droite, et sur la gauche au coin, il y a aussi un café qui est là, comment il s'appelait déjà, Lounès. J'ai déjà fait des soirées chez lui aussi. Donc quand j'ai vu tout à l'heure, ça m'a un petit peu tristé. Ça m'a laissé un petit peu tristé de ce que... De quartier, qu'est-ce qui est devenu? Et comment il va être après par la suite? Ça, je n'en sais pas. Mais est-ce qu'il va laisser quelque chose de mieux? Ma foi, c'est bon. Et en plus, ce que je voulais dire, moi, sur Salah, c'est un type qui a, pour dire, parce qu'on va dire qu'il n'est peut-être pas né là-bas, mais comme si il est né là-bas. Mais il voudrait mourir là-bas. Alors pour ce qui lui reste, pourquoi qu'on ne peut pas le laisser mourir là-bas dans cette maison? Je ne sais pas, moi, qu'il la voit au moins, avant qu'il meure, il va dire, tiens, il est encore debout. Même dans son lit, qu'il va mourir là-bas dans cette maison. Et c'est triste. C'est comme si la moitié de son sang, il l'a presque laissé là-bas. Alors donc pourquoi pas de mourir dans cette maudite maison? Mais la raser, c'est bon pour le quartier. Je ne vais pas dire que c'est pas bon, etc. Mais comme ça, c'est une idée qui lui est venue dans la tête. Il voudrait mourir dans cette maison. Mais ça aurait été quelqu'un qui a peut-être de thunes, d'épaules et tout ce qu'il fallait, peut-être qu'on aurait foutu la paix. Jusqu'au temps qu'il va mourir là-bas, et on va démolir la maison comme si ce n'est rien été. Mais pour ça, là, c'est autre chose.
Fin de ce magazine Planète Info, une émission présentée par Manjushri Pradhan et réalisée par Stéphane Gravier.